Le fou du roi.
Bienvenue chez les bouffons, ils peuvent tenir, ils peuvent mordre, railler, triter, dimoquer ou retarder. Tout et tous en parfaite impunité aujourd'hui, volontairement, sont entre les mains de Guy Carlier.
Bonjour.
Bonjour. Joey Catena. Vincent Roca. Bah, normalement, elle devrait être là. Michel Fitoussi. Avec nous, Bruno Mazur.
Bonjour.
Spécialiste de la chanson française, Damien Thévenot. En deuxième heure, nous retrouverons la chronique tendance de Gilles Tessier. Et avec nous, Richard Lornac, au piano.
Et on a un nouveau président à Radio France.
Alors, on peut accueillir notre invité. Je vais vous faire son portrait. Et ensuite, vous pourrez l'accueillir. 4 ans que nous attendons l'événement en imaginant l'entrée de ce chanteur populaire qui a donné près de 300 chansons au répertoire hexagonal en 40 ans de carrière dans ce temple radiophonique où toutes les étiquettes qu'on lui a collées à la peau risquaient de faire sonner le détecteur de politiquement incorrect. Longtemps, il eut les pour et les contre, ceux qui cherchaient dans ses textes une nouvelle provocation ou un coup de gueule, et les plus nombreux qui ont toujours aimé en lui l'interprète des hymnes à l'amour. Et mourir de plaisir, je vais t'aimer, la maladie d'amour, il n'aime rien tant que chanter le bonheur. Lui qui, pour la première fois à 57 ans, montre qu'il est heureux et pose tout sourire sur une affiche annonçant ses prochains concerts à l'Olympia en octobre et novembre. Fort heureusement pour ses fans, il continue de faire la gueule sur la pochette de son nouvel album, qu'il sort après 4 ans de silence, visiblement comme l'affirme le titre, malgré les épreuves passées, il a pris du plaisir et veut continuer à nous en donner. Avec nous, Michel Sardou. Ouais. Si on m'avait dit qu'un jour à France Inter on recevrait Michel Sardou, je serais venu plus vite, hein.
Quelle présentation on m'avait fait, hein.
Bon, c'est... Enfin, avec les anciens présidents, c'est plus qu'on a le nouveau, vous avez le droit.
Il est bien, hein.
Ça aurait été il y a 15 jours, moi, de s'arrêter vers le 12 avril et tout, on n'avait pas de président, hein.
Oui.
Et là, vous n'aviez pas le droit. Puis avec l'ancien Cavada, je lui dis, parce que c'était froid, rouge.
Ah, mais non, mais c'est un bonheur. D'abord, parce qu'il vient avec un album qui mérite d'abord qu'on en parle. Et puis, c'est vrai que c'est. Il paraît qu'au mois d'octobre et de novembre, vous êtes à l'Olympia, c'est déjà complet.
Ça a été complet en un mois et demi.
Ah oui, donc on fait comment si on veut aller vous voir?
Alors bon, on va plus à l'Olympia, on réserve au Palais des Sports.
Ah, c'est pour 2005.
Février, oui.
Ah déjà, c'est incroyable. On va plus vous quitter. On vous avait perdu pendant 4 ans. Vous étiez surtout concentré sur le théâtre.
Oui.
Et là, vous revenez enfin à la chanson.
Et avec plaisir d'ailleurs. Et puis j'ai fait le théâtre, un peu de cinéma, un gros procès avec ma maison de disque.
C'est ça
qui m'a fait prendre du retard sur la fabrication des chansons. Et puis un petit téléfilm qui a plutôt bien marché.
Et donc là on vous retrouve avec cet album et c'est là vous faites la gueule quand même sur la pochette.
Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai cru qu'ils disent c'est pas le vrai quoi.
Je me suis vu sur les murs
avec un sourire radieux. J'ai dit merde, j'ai peut-être les perdre, ils vont dire il a fait son communisme.
Alors on imagine qu'après 40 ans de carrière vous. La sortie d'un nouvel album, ça vous donne aucune angoisse particulière?
Non, arrêtez de dire ça. À chaque fois qu'on sort un album, moi je connais pas d'artiste calme, tranquille, cool, au moment où il sort un film, ou un album, ou une pièce, ou n'importe quoi, ou un livre, ça n'existe pas ça.
Alors on va parler de cet album, du plaisir. On commence par les dames, hein. Michel.
Moi j'aime beaucoup votre album, mais alors moi ce qui m'étonne, c'est que je sais, je lis par les gazettes, j'apprends par la presse et par d'autres voix que vous êtes heureux, très heureux, et pourtant je trouve l'album mélancolique, triste.
Non.
Non.
Écoutez, vous avez le droit de le prendre comme vous voulez. Moi j'ai dit, on l'a pas fait du tout triste, ni nostalgique, ni tourné vers le passé, ni machin, ni bilan. Je vois, on me dit, ça fait 10 ans qu'on me dit, alors votre nouvel album, c'est un album bilan.
Non, je
ne dis pas vous, mais genre, c'est pour ça que vous ne fiez pas trop aux gazettes, parce que je réponds souvent n'importe quoi. Comme c'est souvent les mêmes questions, donc j'essaie de varier. Un coup, j'ai une version, d'une autre. Mais franchement, on ne l'a pas fait en pensant à être triste, à même amer ou regret. J'ai aucune raison d'être amer. D'abord, ce métier m'a comblé, donc j'ai pas de raison d'être amer. On a fait ce qu'on a voulu, ce qu'on a senti. Alors si vous vous le ressentez triste, c'est peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas très en forme.
Ah non, non, c'est pas très
bien. Déjà qu'elle n'est pas en avant.
Non, mais vous dites vous-même que vous aimez bien les chansons d'amour contrariées.
Bah oui, parce que si je raconte à chaque fois, je t'aime mon amour, t'es tellement belle, t'es tellement tendre, t'es tellement bien, oh, ça fait chier tout le monde. Hein. Tandis que s'il l'aime, puis en même temps il l'aime pas, puis en même temps il revient, puis il l'aime encore, puis il l'aime plus, puis ce qu'il va, c'est un peu l'amour contrarié, même dans les mots on contrarie, on joue, vous savez, les chansons d'amour, on en a écrit depuis 8 siècles, alors... pour en faire une originale, même ne serait-ce que derrière Aznavour, déjà, pour en faire une derrière lui, c'est compliqué, je vous jure.
Damien ?
Mais moi, je me pose une question, Michel, savoir si on pourrait vivre sans vous. Franchement, parce que cet album, c'est un événement, 2004, on l'attendait. Non, mais je suis... Évidemment, Guy va se marrer, mais franchement, vous faites tellement partie de... Vous riez de qui ? De moi ou de Guy, Stéphane ? Il y a Stéphane qui mord de rire, c'est pas grave. Non,
mais sans vos disques, peut-être pas, mais sans vous. Enfin, on n'est pas stagiaires de Mykonos, nous. Hein. Vous n'avez pas fait de ça,
Je ne parle pas de Michel Sardou, je parle du chanteur, pas de l'homme privé.
Ah, non, c'est mon comme Johnny.
Je dis sincèrement, moi je suis absolument fan, j'ai grandi avec vous. Je me souviens qu'en 81, le Connemara, j'étais Pichoun et je chantais ça sur scène déjà. Et non, moi j'adore, c'est Sardou, c'est une voix, c'est moi, je suis quoi vous dire, c'est banal, moi je vous adore. Donc,
bon, gentil à vous, mais bien sûr, vous pourrez vivre sans moi très bien.
Je suis pas sûr.
Et vous verrez, et même sans moi.
Mais prévenez-moi avant quand même que je.
Sans moi d'ailleurs, je pense que s'il
y a. Mais d'ailleurs, il y a une chanson qui est vraiment très très symptomatique, c'est La vie, la mort, etc.
Oui, on entre, on sort, c'est tout. Ouais.
On entre, on sort, c'est tout. Et d'ailleurs, vous trouvez qu'au fond, ça sert à rien, qu'on finira, on ne laissera rien, on partira tout nu et que.
Surtout, l'idée, c'est comme on sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on a beau se poser... Il arrive un moment où on se pose la question, évidemment. Quand on commence à voir ses amis, notamment, s'en aller, on se dit, merde, on commence à voir un peu la bande qu'on déteste décimer un peu. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un après ? Est-ce qu'il y a un avant ? Est-ce qu'il y a... Bon. Mais finalement, comme on ne sait rien, comme on n'en saura jamais rien, ben on s'en fout, puis on verra bien.
On choisit pas, comme
on choisit pas, voilà. Hein, donc faut vivre l'instant présent, être heureux, je t'en prie.
Moi je suis fan depuis toujours, j'adore votre timbre de voix, j'aime beaucoup le duo avec Garou, j'aime bien surtout
dans le micro aussi.
Les deux dernières,
Michel, il chante dans le micro.
Les deux dernières, bah oui, le jour où on aura des micros qui fonctionneront, ça sera formidable.
Oui, il faut juste
et voilà, parce que ça serait déjà bien. Je vais vous retourner la question, parce que vous racontez dans une interview que votre chien, Oslo, a l'oreille plus musicale que celle de votre femme, Anne-Marie, et vous dites, quand il aime mes chansons, il monte sur le canapé en hurlant. Alors je voulais savoir pour laquelle de ces chansons il a le plus
envoyé. Dès que c'est aigu, il chante. J'ai un chien qui chante. Il chante.
Tu peux continuer à les poser en micro.
Donc quand il aime bien un truc aussi au piano... Hop, il monte sur le canapé, j'entends... Ouh,
là, alors, c'est laquelle sa préférée?
Ah bah, dès que c'est aigu, il s'en fout, lui. Il faut que ça monte. Mais quand on reste dans le grave, par exemple, La vie, la mort, etc., dont on parlait, quand on reste dans le grave, il n'a pas bougé. Hein, franchement.
Moi, j'aime beaucoup La rivière de notre enfance, et il y a les deux vers à la fin qui sont magnifiques.
De Barbe-Olivier, hein, c'est Barbe-Olivier qui a écrit.
Mais c'est très beau, ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Et ça, c'est magnifique, c'est une très très belle image, je trouve.
Oui.
Là, j'ai l'absence.
Bah, c'est vrai que la mort, on l'accepte, évidemment, bien que celle de mon père a été un peu vite, quand même, il est mort assez jeune. Mais enfin, il est mort de la plus belle mort possible, il est mort en entrant sur scène, et il ne s'est pas vu partir, il n'a pas souffert, il n'a pas... Enfin, bon, il est parti quand même un petit peu tôt. Hein. Mais je veux dire, bon, le coup passé... Ce qui me manque maintenant, c'est peut-être de temps en temps une plaisanterie, une histoire... coup de gueule, sa façon de raconter l'histoire de France, par exemple. On est toujours les meilleurs, on est les plus beaux, on a gagné à Zincourt quand on écoutait mon père.
c'est ça. Alors, il y a une autre chanson, pardon, c'est Du plaisir, qui donne le titre à l'album. Vous dites, la seule allusion que vous faites, parce qu'il n'y a aucun coup de gueule vraiment dans cet album, c'est oser parler, quitte à me faire haïr, j'ai pris du plaisir. C'est-à-dire qu'on sent que dans toute votre vie, c'est vrai que vous avez fait des choses qui vous ont parfois mis le public, un certain public, ou une critique à dos. Mais au fond, vous avez pris du plaisir en recevant les coups.
Bah, c'est-à-dire que oui, au moment où je les recevais, pour être tout à fait franc, ça ne me faisait pas très plaisir. C'est qu'une fois, qu'on a dépassé ça, bon, bah, finalement, c'est un bon moment. Ça fait partie des moments de combat qu'on rencontre tous, plus ou moins dans n'importe quelle profession d'ailleurs.
Au moins, vous ne laissez pas indifférent.
Voilà. Bon, je trouvais ça un peu ridicule parce que moi, j'écrivais des chansons, je ne me rendais pas bien compte d'ailleurs à l'époque de la portée des chansons. Et j'ai dit des conneries comme tout le monde, et je le reconnais volontiers. personne n'est à l'abri d'en dire une.
Mais des regrets, vous avez des regrets?
Non, aucun. Vous savez, quand on a 20 ans qu'on écrit des chansons, ça vient comme ça, et puis on ne se rend pas toujours compte de la portée que ça. En plus, on était à une époque où tout était très manichéen, c'était bien, c'était rouge et noir, bon, etc. Donc, ça m'a pas déplu, au fond, parce que ça m'a donné une personnalité. Et puis après, quand même, ça prenait de l'ampleur, ça a commencé à me gonfler. Alors j'ai dit, bon, ben, on va arrêter ça, pour pas que ça, parce qu'il y avait carrément bagarre, etc. Donc, ça prenait des proportions un peu ridicules. Et puis après, ça s'est calmé. Tout, les mêmes qui gueulaient à l'époque, maintenant, sont là et très contents.
Guy, par exemple...
Ils ont fait 20 ans de plus, quoi.
Guy, vous faites partie de...
C'est vrai qu'à une époque, il y avait une mode assez con, qui était aussi con que d'être réac, par provocation, qui était de dire, ouais, Sardou, machin, je vais t'aimer, une connerie. Et c'est vrai que vous avez réussi, à force de d'intelligence, à retourner ce truc-là, et à force de distance aussi, probablement. Et maintenant, comme disait Damien, vous êtes là, dans la vie de tout le monde, vous y pouvez rien, vous êtes comme Johnny, il y a des gens comme ça. Mais maintenant, sur l'album, moi, au début, j'ai écouté dans ma voiture, comme dit Stéphane, et je me suis dit, tiens, il n'y a pas un truc comme musulmane, et je suis allé... Je mets un peu ma vie intime, je suis allé faire pipi, et en revenant, sifflotait musulmane, vous voyez, pour vous dire la force d'une chanson. Et je me suis dit...
Pipi, vous avez du courage.
Voilà, et oui, et sans blaguer, et je me suis dit, les textes paraissent un peu simples. Un jour, j'ai rencontré Delanoé, qui m'a dit, mais attends, la chanson la plus parfaite, c'est « Quand j'étais petit garçon, je révisais mes chansons, en chantant. » C'est d'une simplicité, c'est hallucinant. Ouais. Et c'est d'une efficacité. Et une chanson, c'est ça. Donc j'imagine que là-dedans, Loin, notamment, où les trois chansons de la fin qu'on aime tous, sont du même ordre. En tout cas, c'est tout ce que
j'ai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet musulman, on l'a un petit peu dans Loin. C'est ce que j'appelle les chansons spectacles, ouais. J'aime bien faire une chanson où d'un coup il y a un film, voilà, un petit peu où on peut faire un effet, on peut se permettre de faire un effet scénique, et que ça, j'avais fait l'an 1000, j'en ai fait plusieurs comme ça pour être des chansons de scène.
Parler du texte, oui sur comme un film, quoi. Loin, c'est... Bon, c'est vous, j'ai vu le clip, mais musulmane, c'est un thème donné comme... vous voyez, l'an 1000, etc. Ouais, c'est un truc où vous pouvez faire le fou du roi, quoi. Ouais. Enfin, non, pas le fou du roi, le puits du fou.
vous voyez
vous
parlez d'eux.
Et avec un thème comme le France, comme le Connemara, enfin, tout ça.
Mais monsieur Ali Oudelanoé a raison, c'est que les chansons les plus efficaces et les plus belles, c'est les chansons très simples.
Populaires,
les plus très simples, c'est plus difficile à faire. D'ailleurs.
Alors c'est une très belle chanson qu'on va écouter maintenant, extraite de l'album. Moi j'ai vu le clip aussi. Vous avez tourné je crois en Argentine.
Argentine et Brésil, parce que c'est à cheval entre les deux pays.
Vous n'avez pas tourné en Pentagonie comme dit Hermine Le Père.
Non. C'est où chute.
Au chute d'Iguassou. C'est 40 kilomètres de chute énorme. Oui.
Bonjour l'humidité. Hein,
mais Niagara, c'est une piscine à côté. C'est rien.
Alors on écoute cette chanson, s'intitule Loin, extrait du nouvel album de Michel Sardou, du plaisir. Loin, Michel Sardou, c'est le premier extrait de ce nouvel album. C'est vrai, est-ce que vous pourriez vous identifier au personnage, parce que vous dites je, mais j'imagine il y a une part biographique, autobiographique, et une part qui est loin de vous, de se dépouiller de tout pour aller au fond, jusqu'au bout de l'introspection.
Mais j'ai même pas pu aller au bout de la chanson, parce que je voulais qu'il aille encore plus loin, mais ça faisait une chanson trop longue.
Il est allé où, Michel?
C'est-à-dire qu'il va tellement loin pour trouver... justement
l'après.
En fait, c'est un peu, on se retrouvait dans le cas de 2001 Odyssée de l'espace, si vous vous rappelez du film, où finalement il se retrouve lui. Ouais. Lui à la fois vieux et fœtus, à la fois mourant et fœtus, c'est ce que je voulais faire. Seulement, ça faisait une chanson de 7 minutes, et aujourd'hui une chanson de 7 minutes, on s'assoit dessus, ça passe nulle part. Voilà. Donc on m'a coupé.
Il y avait un peu de maquillage après.
Oui.
Il y a une autre chanson aussi qui est Recommencer sa vie, non merci. C'est une chanson intéressante parce qu'on peut imaginer que dans la vie on traverse des épreuves, et vous le dites d'ailleurs dans cet album, visiblement il y a eu des moments où vous avez connu le meilleur et aussi le pire. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas la force, vous n'auriez pas la force vous de recommencer
ça,
à zéro?
Ça c'est pas du tout autobiographique, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas à me plaindre de la vie que j'ai eue. Donc je la recommencerai volontiers si ça m'était donné. Je referais peut-être pas tout exactement pareil, enfin j'espère, mais je la referais volontiers. En fait, j'ai voulu prendre le contre-pied d'un poème de Kipling que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle If, où tu seras un homme, mon fils, en français, où il dit justement, si tu es capable de te reconstruire en un seul jour sans dire un seul mot, tu seras un homme, mon fils. Et j'y serai jamais cet homme-là. Moi, si ça s'écroulait, si tout s'écroulait du jour au lendemain, pour une raison quelconque, mon Dieu, ça arrive, c'est arrivé. J'ai connu des hommes qui ont tout perdu d'un coup, sous un mauvais coup de dé, une mauvaise donne, avoir d'un seul coup la force de se dire, sans dire un seul mot, j'ai tout reconstruire, je vais repartir, je vais me relancer, je sais pas.
Ça dit, vous avez une force incroyable. Là où vous avez tous bluffé, c'est, il vous est arrivé des drames dans la vie, de la perte de votre père, de votre maman aussi, et à ce moment-là, vous étiez sur scène. Le soir, vous chantiez à Nancy.
Le pire, c'est papa, il est mort à l'Opéra de Toulon, et le lendemain, je chantais à l'Opéra de Toulon. Et ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Et il n'y avait pas de voyeur, hein, parce que le public, pour ça, je dois dire, est assez respectueux et même amical dans ces cas-là. Et donc j'étais sur cette scène et quelqu'un me dit, tu devrais chanter dans le public, quelqu'un me dit, tu devrais chanter aujourd'hui peut-être pour ton père. Moi, j'avais tenu le coup, j'étais bourré de pilules et tout, j'étais carrément shooté, faut bien le dire. Je prends la chaise, je m'assois, j'attaque aujourd'hui peut-être, et on tombe en sanglots, les musiciens, moi, tout le monde, le public, c'était un enfer. Ça a été le choc de ma vie. La mort de maman, j'enterre maman à l'église le matin, et le soir, je chantais à Nancy. Bon, ça fait partie, comme on dit, le show must go on, mais enfin bon, j'ai pas de peau, quoi. J'aurais préféré avoir un jour de repos le lendemain, quand même.
Mais en fait, c'est ça, vous faites partie d'une famille de saltimbanques et il faut absolument que le spectacle continue, vous devez au public.
Absolument, et normalement, c'est la règle, c'est une jolie règle, d'ailleurs, parce que, au fond, c'est pourquoi la vie s'arrêterait. Elle s'arrête pas, ça continue.
Michel, par rapport au choix du premier single qu'on entend un peu partout, c'est Loin, est-ce que c'est évident? Est-ce que, quand on fait cet album, on se dit le premier, ça va être Loin? Comment se passe le choix de la chanson qui va représenter l'album?
Me demandez pas ça, moi je m'en mêle jamais. Parce que d'abord, je suis très mauvais juge de ce que je fais, et je ne gère pas ce que je fais.
Cependant, il y a 3 ans, au moment de la sortie de votre précédent album, vous disiez, dans chaque album, il faut une chanson événement. Alors peut-être c'était une connerie, vous dites que raconter par
connerie,
mais c'est laquelle.
Je crois que Loin est assez un événement, parce que c'est on a fait un film dessus, ouais. on l'a voulu un peu spectaculaire, alors peut-être que, comme il le disait tout à l'heure, elle n'a pas la puissance des musulmanes, ça c'est possible, mais on n'a pas toujours non plus la chanson et le sujet, ou même l'an 1000, mais j'imagine que l'an 1000, en simple, en premier single, les gens n'auraient peut-être pas bien compris, il fallait le voir sur scène pour peut-être assimiler l'an 1000. Là, j'ai voulu faire un beau film, leur présenter un clip qui soit pratiquement un film, pour rentrer et après que le disque augmente, continue avec les autres chansons.
Voilà. Alors, Michel Sardou, il faut que je vous présente 2 garçons qui sont là avec nous. Il y a Jacques Do, Jean-Marc Catella, et oui, je donne de temps en temps leur prénom. Sinon, on les appelle Do et Catella, on ne sait plus lequel est lequel. Et Jacques Do, alors, vous allez nous raconter cette histoire avant de lancer votre chronique. Ah. C'est que, à 14 ans, oui, vous avez remporté un radio crochet,
oui,
avec une chanson de Michel Sardou.
Oui. Et c'est la première fois que je suis monté sur scène en 69 pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon à Ajaccio. Il y avait Guy Lux qui présentait, c'était en plein air au Casone, une immense place. Derrière moi, il y avait la statue de l'empereur. Oui. Et là, sur un piano à queue gigantesque.
Vous ressemblez un peu, non?
On se calme.
T'as donné quoi?
J'ai chanté
cette Richard, chanson. Attendez, de Michel Sardou. On fera la chronique après. Richard, voilà.
Ça c'est l'intro.
Avec l'acteur corse.
Un enfant de toi, sans être marié, un petit bébé, dit. Si j'en faisais un, ça étonnerait bien les copains. Moi l'idiot, le dernier des hommes, l'éternel absent, le moins que personne. J'aurais sur mon cœur quelqu'un de moins fort, que j'endormirais avec mes chansons.
admirerait, moi son plus petit.
Bravo.
Alors, je me tourne vers Armand Altaï.
Et devant l'empereur. Enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon.
Dis donc, vous êtes mûr pour la Starac, hein.
Alors, sans plus tarder.
C'est moins marron des deux, mais je le garde parce qu'ils sont mieux. Ah, bon,
alors, notre duo, voilà, est prêt. Merci, bravo, là. Vous avez.
Ils chantent bien,
hein, quand même. Oui, oui. Oh, moi, je suis vachement fier.
Scotché,
oui. Alors, sans plus tarder, voilà, Do et Catella. Merci, Stéphane. Michel Sardou, bonjour. Chers auditeurs, vous l'ignorez sans doute, mais lorsqu'on est une star comme Michel Sardou, il faut faire attention à tout ce que l'on dit.
Ah oui, la moindre phrase, la moindre déclaration, le moindre mot d'humour peut avoir de graves conséquences.
Dans Paris Match, le 21 août 2003, à la question posée par le journal, Anne-Marie, votre femme est-elle, comme on dit, une femme d'artiste?
Eh bien, vous répondez, d'artiste, oui, mais de chanteur, non. La musique et elle sont deux choses. Mon chien, Oncelot, a plus l'oreille musicale que ma femme. Quand il aime une chanson, il monte sur le canapé en hurlant.
Alors ça, c'est le genre de choses que remarque Bruno Mazur, mais qu'il vaut mieux éviter de dire. C'est drôle, certes, mais ça peut vous porter tort.
En effet, chers auditeurs, suite à cette déclaration, nous avons donc dissimulé nos micros chez les Sardou le jour de la sortie de cet article pour connaître la réaction d'Anne-Marie.
Et apparemment, ça ne l'a pas transporté de joie et ça a surtout mis Michel dans l'embarras, car il est très amoureux de sa femme.
C'est du moins ce que nous allons vous prouver en vous faisant écouter ce que vous allez entendre.
Nous sommes chez les Sardou, Michel est encore endormi, tandis qu'Anne-Marie sirote un café en parcourant Paris Match. Elle tombe sur l'article en question.
Oh le salaud! Oh le salaud! Non, c'est donc moi qui fais la voix d'Anne-Marie.
Mais le salaud, c'est vous, monsieur.
J'ai bien compris.
Alors comme ça, notre chien a plus l'oreille musicale que moi. Personne ne m'a jamais dit que je sentais faux.
De colère, elle va sous la douche pour se calmer, non sans s'être déshabillée entièrement.
Et ça, j'ai envie de dire que c'est l'inconvénient majeur de la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image.
Ça, c'est la voix de la douche qui coule.
Ah oui, d'accord. Elle court, elle court, la maladie d'amour. Alors je chante faux, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas entendre, je chante faux, c'est n'importe quoi. Dans le cœur des enfants de cette affaire.
Effectivement, elle a la voix un peu fausse, mais à peine. Michel arrive en courant dans la salle de bain, effrayé, il n'a même pas eu le temps de couvrir sa nudité. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi ce vacarme?
Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri?
Et Michel réalisant que c'est sa femme qui chantait, non, rien, j'ai été réveillé par un hurlement de chien, je ne sais pas, je...
Temps, c'était pas les chiens.
Ah bah c'est notre système d'alarme qui a dû se déclencher intempestivement.
Michel, c'est moi qui chantais sous la douche.
Non, mais je sais, ma chérie, je t'ai entendu. C'était magnifique. Non, il y a eu un bruit qui m'a réveillé, mais c'est pour ça que je me suis levé. La tuyauterie, voilà. Il faut faire venir le plombier, c'est la tuyauterie qui déconne, non?
J'ai entendu d'un normal, hein, moi.
Mais évidemment, t'étais sous la douche. Non, et puis sinon, c'est... j'ai dû faire un cauchemar. N'en parlons plus. Est-ce que je te prépare un café?
Michel, est-ce que tu aimes quand je chante?
Si j'aime lorsque tu chantes.
Ah oui.
Mais évidemment, ma chérie, je trouve d'ailleurs que tu ne chantes pas assez souvent. Et puis, tu sais, j'aime tout ce que tu fais.
Oui, mais d'accord. Non, mais juste quand je chante. Est-ce que tu aimes?
Mais oui, bien sûr que j'aime. Quelle question. Je te prépare un café.
Oui, et si je chantais faux, tu me le dirais?
Mais alors toi, mais pourquoi voudrais-tu que je te dise que tu chantes faux alors que ce n'est pas vrai,
hein? Et si tu trouvais que je chantais faux, tu n'en parlerais pas à la presse People comme Paris Match?
Non, ben alors évidemment, chérie, tu me connais, hein, c'est pas mon genre, hein.
À ce moment-là, Michel aperçoit Paris Match ouvert à la page de l'article en question et relit ce qu'il a déclaré.
Non mais tu as lu ça, chérie, tu as lu ça. Ils ont écrit exactement le contraire de ce que j'ai dit, hein. Je leur ai dit que tu avais l'oreille musicale et que notre chien, pas du tout.
Ah oui, avant, et tu me rassures, ce sont eux qui se sont trompés, ils m'ont confondu avec notre chien.
Enfin, quand même, hein.
Ils t'ont demandé si c'était pas trop dur de vivre avec un chien qui a pas l'oreille musicale.
Tu connais les journalistes, ils te posent parfois des questions étranges.
Bien sûr, et tu leur as dit que le chien chantait faux.
Voilà, exactement, je leur ai dit qu'il chantait faux, et franchement, c'est pas facile de vivre avec un chien qui chante faux.
Ah oui, mon chéri, que je suis contente, j'étais sûr que tu pensais que je n'avais pas l'oreille musicale.
Enfin, mon amour.
En fait, dis-moi, pourquoi lorsque je chante, le chien hurle de joie debout sur le canapé et pas pour moi?
Non, mais pour toi aussi, il doit le faire, sauf qu'il ne t'a jamais vraiment écouté. C'est pour ça.
Oui, d'accord, je vais chanter pour voir s'il
aime. Non, tu vas pas essayer. Essayons, buvons le café d'abord.
Non, tout de suite, on se l'eau. Viens ici. Écoute.
quand on fait la java dans les rues de Brabant, ça signe comme un
menant. Pendant qu'Anne-Marie chante, Michel essaie discrètement de faire monter le chien sur le canapé.
Allez, monte sur le canapé. Michel, monte sur le canapé. Regarde, 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 voilà, regarde, fais comme moi. Tu marches, voilà, marche à quatre pattes comme moi, voilà, tu me suis. Allez, maintenant tu aboies, c'est ça, tu, comme ça. Non, monte, bois, tu aboies, comme ça, je te dis, le chien aboie.
Et pendant que sa femme continue insensiblement de chanter, Michel Sardou se retrouve nu sur le canapé, à quatre pattes, en train d'aboyer. Anne-Marie l'aperçoit.
Mais qu'est-ce que tu fais, Michel?
Le chien, waouh, waouh, je faisais le chien, je fais bien le chien, non? Je vais renvoyer le nôtre, il n'a aucun sens de l'harmonie.
Bah alors, dis-moi exactement comment je chante.
Écoute, mon amour, je sors me faire un petit pipi sur le trottoir, hein, et on en parle tranquillement tout à l'heure devant un nonos, hein.
Voilà, fin de l'enregistrement.
Naturellement, tout ceci est entièrement faux.
Michel Sardou n'aboie jamais nu sur son canapé. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Ah non, un dernier truc aussi. On aime beaucoup ce que vous faites.
Voilà, Do et Catena. Alors, c'est la première fois que vous venez, Michel Sardou, dans cette émission. La tradition veut, je vous l'explique, c'est qu'on raconte la vie de notre invité. Enfin, on lui fait raconter, plutôt. En fait, en réalité, vos parents étaient très peu présents dans votre vie quand vous étiez petit garçon.
Ah oui, très peu, oui. Très peu, non pas parce qu'ils ne voulaient pas...
Non, mais ils tournaient.
Travaillaient, oui.
Et donc, en fait, vous avez été élevé, vous alliez beaucoup en pension, non? Vous étiez dans la Meuse à un moment?
D'abord, j'ai été élevé par une... oui, dans la Meuse, par une dame qui était garde-barrière, que j'adorais, qui était ma nounou. Et puis après, j'ai été en pension. J'ai été en pension, j'étais très mauvais élève, donc mon père ne savait plus où me mettre, toutes les écoles me viraient. Fred Mella, qui était dans les compagnons de la chanson à l'époque, dit, mais il y a un collège où ils prennent les tarés. c'était le Moncel.
À Jouy-en-Josas.
À Jouy-en-Josas, où j'étais quand même avec quelques tarés, comme Modiano, Garouste, Jean-Michel Rime, etc. Voilà, donc on s'est retrouvés là. Et là, d'un coup, les études ne m'ont plus, là. J'avais de très bons professeurs.
Sauf qu'à un moment, vous avez, je crois que c'est en septembre 63, vous avez fait le mur, et vous avez décidé que vous vouliez absolument interrompre votre scolarité, et puis, je sais pas, partir au Brésil, c'était votre idée.
Oui, enfin, une boîte de striptease, dit votre bio.
Oui, ça, c'est un peu la bio, oui. C'est la bio qui exagère un peu. On a été auditionné des stripteaseuses ce soir-là. on a pas...
En fait, il est tout bois.
Non, je t'appigale. Non, je me suis dit, au fond, j'ai dit à mon père, écoute, ce que je veux faire, c'est de l'artistique, enfin, de la comédie au départ. Je veux être comédien. Pour mon père, c'était très important que j'ai le bac. Il n'avait pas été à l'école, il avait dû travailler très tôt, et à l'époque, le bac, c'était quelque chose pour lui très important. Quand on avait son bac, on pouvait se débrouiller si ça marche pas dans ce métier-là, t'auras toujours un métier avec le bac. Le bac. À l'époque, le bac se passait en deux temps, il y avait un premier bac, un deuxième bac. Donc je passe le premier, puis le deuxième, j'arrive, je dis, écoute, franchement, j'en ai rien à foutre, je vais être comédien, je vais pas choisir maths ou sciences ou... donc, fous-moi la paix, je t'ai fait plaisir, j'ai un bac, je pourrais toujours me déberner, laisse-moi prendre des cours de comédie. Et il a accepté.
Et ensuite, il avait un cabaret, en tout cas, où?
Oui, à Montmartre.
Chez Fernand Sardou.
Oui, à l'époque, c'était les garçons qui faisaient le spectacle.
Et servaient en même temps,
un peu comme, ça a été repris après au Paradis Latin. C'était le principe, c'était très marrant d'ailleurs. Et on faisait des sketchs, des pastiches, on chantait un peu de tout, là, il m'a fait débuter là-dedans.
Mais cela dit, à l'époque, des gens vous ont dit, vous n'êtes pas fait pour ce métier, vous ne devriez pas chanter.
Plus tard.
Dit ça, je crois.
Pas Barclay lui-même, malheureusement.
La maison Barclay.
C'est beaucoup plus drôle que ça. Il avait engagé un directeur général qui s'appelait Berger, je crois. Mes souvenirs sont bons, et il voyait que les colonnes de chiffres, évidemment, comme beaucoup, maintenant même encore aujourd'hui, les ventes, oui. Alors c'est vrai que je ne vendais pas beaucoup de disques, mais je passais beaucoup en radio. Mais je vendais pas beaucoup de disques, ce qui était normal. Il faut le temps, avant que les gens mettent un visage sur un album, il faut du temps. Et alors il me rend mon contrat au mois d'août. Et en même temps, il rend celui de Pierre Perret, d'ailleurs, dans la foulée. Et j'ai l'honnêteté de lui dire, écoutez, vous venez de payer une séance, là. Vous avez les bandes, sortez au moins le dernier disque. Ouais. Non, la décision est prise, la politique de la maison, enfin les fameuses politiques maintenant, ce qui n'a pas changé, c'est toujours pareil, les politiques de gestion des maisons de disques, et ils nous foutent à la porte tous les deux. Moi j'avais les balles populaires, et lui il avait le torboyau. Et donc, 4 mois plus tard, une fête Barclay comme d'habitude, Eddie me voit et me fait on a gagné. C'est pourquoi moi j'étais plus chez lui. J'étais un peu gêné. Et je me suis senti d'un seul coup un peu mal. J'ai dit, mais tu sais que c'est chez Polydor. T'es au grand quoi. Bon, le berger, je sais pas ce qu'il est devenu.
Il a fait un petit truc qui s'appelait Starmania. Ah, il a changé de voix.
C'est pas le même.
Bruno, vous disiez quelque chose.
Oui, non, mais je suis perturbé parce que vous racontez, parce que vous dites dans une interview, j'ai eu justement la chance de tomber à une période où les firmes de disques fonctionnaient de façon différente de maintenant et que mon vrai succès est arrivé au troisième disque, alors que maintenant, dans les maisons de disques, on ne donne pas une troisième chance.
C'est le hasard. Bah, écoutez, c'est bien simple. Quand vous avez 19 ans, on se connaît pas à 19 ans. En plus, moi, je ne voulais pas le faire, ce métier. Donc, j'y allais à reculons. Hein. J'étais pas du tout, j'avais pas envie de chanter du tout. J'avais une petite voix. En plus, je n'avais pas travaillé ma voix. J'étais pas prêt pour ça. Et puis, de toute façon, même si j'avais été prêt ou destiné, il faut quand même quelques années, au moins 10 ans. Pour être un pianiste, il faut 10 ans d'études, pour être un guitariste aussi, pour être un chanteur, enfin pour apprendre à chanter, tout s'apprend. Maintenant, vous avez un succès, et tout de suite, on vous demande d'avoir les résultats, ou de faire des salles combles, comme un homme qui a mis 20 ans à se roder sur des scènes, enfin pas 20 ans, mais en 10 ans, à se roder sur des scènes, à passer en première partie, à apprendre son boulot. On rentre pas sur scène comme ça, 3-4 en avant, on fait 25 chansons, dont le public n'en connaît qu'une. C'est pas jouable. Et c'est pour ça que le hachoir est de plus en plus serré, et qu'il y a des artistes qui ont du talent, mais qui sont pas encore révélés ou découverts, tout simplement.
Mais après, les balles populaires, c'est parti, enfin, ça a été...
C'est parti, oui, mais parti en première partie de spectacle. C'était pas parti comme... Je crois que j'ai été le premier à faire en jeune un récital à l'Olympia. J'avais pas assez de chansons pour faire un récital, donc je faisais deux fois la même chose. Chez Cocatrix, c'était assez fou pour faire ça. Bon, mais les gens l'ont accepté.
J'habite en France, vous avez obtenu le grand prix de l'Académie Charles Cros, c'était en 71.
Ouais.
Et c'est vrai que vous êtes l'un des rares à avoir autant de chansons qui font partie de l'inconscient collectif.
Années 70, c'est énorme, ouais.
Les ricains, les balles populaires et mourir de plaisir, j'habite en France, et le rire du sergent.
L'inconscient collectif, même.
Oui, dans l'inconscient collectif.
Du conscient.
Et du conscient, on en a conscience, mais on l'oublie un peu aussi de temps en temps.
Elles sont ancrées.
Mais elles sont ancrées. Je vais t'aimer, et puis même les chansons plus controversées. Mmh. Elles ont fini par exister, je veux dire, et on les connaît toutes. Le France, évidemment, J'accuse. Je sais pas combien de chansons les gens connaissent.
Je vous demande pardon.
Je me souviens de la cour du lycée à La Fontaine quand j'étais en troisième, seconde, première, où on chantait vraiment, on se réunissait dans la cour du lycée pour chanter vos chansons.
C'était lesquelles?
Les balles populaires, le rire du sergent, enfin tout ça, c'était...
Et vos copines vous demandaient d'arrêter, non?
Moi, oui, personnellement. Personnellement, elles me demandaient d'arrêter car je chante effectivement.
Oh, mais souvent, t'arrives en retard, donc...
Michel, est-ce vrai que les balles populaires, vous la sentiez pas du tout, cette chanson?
Pas du tout.
Vous ne fieriez pas le succès?
Non, parce qu'on l'avait fait en plaisanterie, en fait. On l'avait fait pour...
L'ouvrier parisien et tout.
Oui, on l'avait fait à la mode ancienne, une espèce de parodie.
Et Mille Vincent et compagnie.
Oui, par le côté, bon... Et je sais pas, j'avais marché, on était en pleine vogue à l'époque des adaptations américaines, c'était Bissoma Bissolance du Souligne. C'est ça qui marchait, j'ai dit ça. On va se casser la gueule avec ça, faut pas sortir ça. Et justement, c'est le contre-pied qui a fait que ça a fonctionné. Je pensais pas que ça allait fonctionner comme ça.
C'est peut-être la seule que vous pourriez, dans les interviews, vous dites, c'est la seule que vous pourriez renier. Ou en tout cas que...
Non, pas renier, faut pas exagérer, mais enfin, je la mets plus. Quoi. Bon, parce que d'un seul coup, ça me fait... Bam, 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 bam. En plus, c'était piqué aux Beatles, c'était l'intro des Beatles, quand même, faut pas l'oublier. Carrément, on avait joué la charge à fond. Donc, on pensait pas du tout que ça allait fonctionner. Donc, et voilà, comme quoi, on est quelquefois surpris.
Alors, on va recevoir maintenant une songwriter flamande, est inspirée, hein, entre autres, par Dolly Parton et Nick Cave. Il s'agit d'Anne Pierlet, qui vient nous présenter son nouvel album Polk Folk, Helium Sunset, qui fait l'unanimité dans la presse, qu'elle soit spécialisée ou généraliste du reste. Et Sorry, c'est la chanson qu'elle vient nous interpréter avec Cohen à la guitare dans Le Fou du Roi, Anne Pierlet.
Say you will.
Merci Anne Pierlet, merci également à Cohen. Je vous rappelle le titre de son album, Helium Sunset.
Je vous signale qu'Anne Pierlet sera sur scène à hier, mais c'est ce soir, hein. Enfin, c'est à hier, ce soir, 19 mai. Oui, c'est facile. Raymond DeVos le fait avec beaucoup plus de talent. Puis à Angoulême, samedi prochain.
Non, il le fait pas, Raymond DeVos. C'est pas drôle.
Oh, mais c'est toi qui me dis ça. samedi prochain, 22 mai, à Angoulême. À Dijon, ce mardi 25 mai. À Strasbourg, le 26. À Saint-Brieuc, le 28. À Châteaudun, le 29. À Alençon, le 31 mai. Et aux Eurockéennes de Belfort, le 2 juillet. Mais toutes les dates sont sur son site www.annepierlet.net. Et on la retrouve en deuxième heure, accompagnée par Richard Lornac. Nous sommes toujours avec Michel Sardou pour son nouvel album Du Plaisir. Lui aussi est en tournée à partir du mois d'octobre. Toutes les villes de France, j'ai vu ça. Ça va commencer à Toulon en octobre, et puis Lille, Bruxelles, Lyon, Genève, et puis Paris, puis au mois de février de l'année prochaine, ça sera au Palais des Sports, hein, puisque l'Olympiade est déjà complet. Alors, je sais que vous avez plein de questions à lui poser, mais sans plus tarder, il faut qu'on rejoigne le docteur Esmo qui met, sans musique, mais il met des mots, c'est Vincent Rocca.
Cher Michel Sardou, si j'en crois une des chansons de votre album, on est tous estampillés, ancrés, imprimés dans un bouquin, le livre du temps. La chanson dit « Personne ne peut changer sa phrase, sauter une ligne, un paragraphe, le passé, le futur, on garde les fautes et les ratures. » Ainsi donc, moi qui vous parle et vous qui m'écoutez, on est écrit. On nous a couchés tous les deux sur le papier, embrochés jusqu'à la page de garde. On doit même coucher dans le même chapitre. À la même page, à la même ligne, puisque nos chemins se croisent aujourd'hui. Allez savoir pourquoi l'auteur a-t-il écrit cette ligne-là. Peut-être pour me donner un coup de pied au destin, peut-être pour vous rendre service, allez savoir. Le livre du temps est un livre sans table des matières, dont les feuilles, une fois lues, tombent mortes. Un livre à paraître, paru et appelé à disparaître. Un livre qu'on aurait peut-être dû mettre au pilon avant même de le publier. Oh, c'est pas un chef-d'œuvre, disons un succès d'estime. Mais le livre du temps est appelé à durer. Et puis c'est un livre qui s'écoule facilement. Un livre d'art, peut-être, posé sur un rayon de bibliothèque, un rayon cosmique. Des milliards de vies reliées les unes aux autres, des vies cousues de fil blanc, avec des vies dorées sur tranches, enluminées. Il y a ceux qui ont la chance d'être un grand homme, d'avoir une vie qui a du volume, et puis les moins vénards qui sont dans les annexes. Avec un peu de malchance, personne ne les lira. Ils dorment sur un carton, celui de la couverture. Certains sont raturés. Ils essayent bien sûr de lire sous le trait de la rature. On distingue peut-être énorme succès ou triomphe. Ah merde, c'est barré. Dommage pour eux. C'est mal barré en somme. Chacun lit le petit bout qu'il concerne et un beau jour, il faut tourner la page. Et qui est l'auteur du livre du temps? On ne le connaît pas, dit la chanson. Les croyants vont nous dire que c'est Dieu qui l'a écrit, le livre. Il ne l'a d'ailleurs pas fini, mais Gallimard ne risque pas de le harceler au téléphone pour qu'il livre les derniers chapitres. Allô, Dieu, dites donc, c'est un vrai pavé, votre bouquin, va falloir songer, trouver une chute. Dieu répondrait du haut de sa superbe, monsieur Gallimard, 1, la chute est programmée depuis la première ligne, cela n'a pas dû vous échapper. 2, si vous aviez lu le livre un peu plus loin que le bout de votre nez, vous sauriez qu'il y a belle lurette que Gallimard est sorti du livre, et je ne vous dis pas par quelle porte. Bien sûr, Dieu n'a pas encore choisi le titre, il attend que le livre soit fini pour trouver la formule adéquate. Au vu des chapitres que nous connaissons, ça pourrait être chronique d'un bordel annoncé, ou voyage au bout de l'enfer, ou autant en emportent les vandales. On lui suggérerait bien pelle du Seigneur, mais ça serait pas très bon pour son image. En tout cas, dans ce cas-là, espérons que les droits d'auteur liés aux ventes du livre du temps iraient droit à la reconstruction de la planète qui en aura bien besoin quand le livre sera terminé. Notez qu'il faudrait retirer les émoluments des nègres. Oui, Dieu aurait eu des nègres. Confucius, Bernard-Henri Lévy, Pierre Bellemare. Les athées, eux, diront que le livre du temps est le fruit d'une écriture automatique, d'où son côté très surréaliste, faisant côtoyer un étron mou sorti du derrière d'un caniche à sa mémère sur le pavé parisien et les tournesols de Van Gogh. Ou bien une photo de 4 mètres sur 3 d'un lépreux pour la fondation Raoul Follereau et un mirifique défilé de John Galliano pour Dior. Le titre serait aléatoire, comme il se doit, quelque chose comme... sur le fil dérisoire. Tiens, c'est joli ça, d'où ça sort. Et les plus audacieux diront que le livre du temps est écrit après coup. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, le livre consigne les événements, simplement. Un simple journal de bord, une fidèle transcription. Le livre du temps ne serait qu'un vulgaire livre des comptes, un journal de banque à 3 colonnes, débit, crédit et solde. Au crédit, les pyramides d'Égypte, dans le port d'Amsterdam de Jacques Brel, les premiers pas sur la lune et le persillé de Beaufort aux artichauts de Guy Martin au Grand Véfour. Au débit, les bars à loyer modéré du monde entier, à la queue leu-leu de Bézu l'idée que se fait George Bush des premiers pas sur la Lune, et une assiette de compote de pommes tirée d'une boîte de 5 kilos servie avec une cuillère en plastique un soir à la neige dans un camp de vacances touristra avec des taches d'huile et deux frites froides abandonnées sur la table en formica juste avant de rejoindre sa chambre dortoir avec lit superposé. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour l'animation fête et cotillon du réveillon du 1er de l'an. Demain, réveil à 7h, départ pour les pistes à 9h en quart. Prévoyez un pique-nique pour midi. Le propriétaire de la Renault 14 immatriculé 3476 PR54 qui a garé sa voiture devant le local des poubelles est prié de le retirer dans les plus brefs délais. Un livre du temps régi par une seule règle, au bout du compte, le solde doit être rigoureusement égal à zéro. Et puis, à la page 6687234, il figure les chansons de Michel Sardou, comme quoi on a quand même bien fait de l'acheter le bouquin.
Vincent Rocca, quel titre de ton spectacle sur le fil dérisoire au studio des Champs-Élysées?
Michel Sardou, c'est vrai qu'à un moment, on vous a beaucoup vu au théâtre. Moi, je vous ai vu dans Bagatelle. Oui. Ensuite, avec Brigitte Fosset aussi, l'homme en question.
Et avec Marianne Chazelle.
Marianne Chazelle, oui.
L'inconnu de la cinquième... Comédie privée, mais le titre original est l'inconnu de la cinquième avenue.
Et alors, est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment que ça pouvait être plus épanouissant que la chanson?
C'est autre chose. C'est une expérience que je voulais vivre, que je voulais revivre, parce que je connaissais le théâtre, mais j'avais envie d'y retourner, j'avais envie de me cultiver avec des textes. Mais j'avais la chance d'être mis en scène par Mondy, et Mondy a cet avantage, c'est qu'il montre. Il montre le jeu, ce qui pour un débutant comme moi était très, très important. Et c'est un homme formidable. Ensuite, nous avons joué Comédie privée, qui a été adaptée formidablement bien par Jean-Loup Dabadi, qui était, alors là, j'étais un petit peu plus à l'aise, et j'étais dans un personnage, dans un moment où on ne devait pas rire, puisque c'est un type qui perd son boulot, qui est foutu à la rue, qui rentre chez lui, qui ne sait pas comment le dire, et tout le monde se marrait. Je me suis dit, bon, ça, c'est la magie du théâtre. Puis enfin, Marceau, pour élever un peu plus le texte. Et on se dit, mais on est là parce que...
Quand vous êtes sur scène, moi je vous ai vu souvent sur scène, est-ce que vous avez plus de vibrations, plus d'émotions dans des chansons dites intimes un peu, ou dans des trucs style Connemara où toute la salle chante avec vous? Est-ce que vous avez des perceptions différentes ou est-ce que c'est pareil?
Non, ça il n'y a pas de vibrations différentes. Ils chantent à peu près tout, en général, doucement, parce qu'ils se sentent pour eux. Ils prennent de plus en plus de courage, et puis à la fin, comme Connemara ça pète, ben là il se lâche, et ça fait plaisir. Mais je crois que le moment qui fait le plus plaisir, je vais vous le dire, c'est les 7 ou 8 secondes juste avant votre entrée, quand ils vous accueillent. Ça, par contre, au théâtre, ça n'existe pas. On rentre dans un silence de mort, c'est terrible. Alors que nous, quand on arrive sur une scène, vous êtes accueillis. Alors ça, pendant 15 secondes, vous prenez une tête comme ça, vous êtes à 15 centimètres au-dessus du sol, et, bon, et puis ça se calme tout de suite, évidemment, hein, ça reste pas. Mais ça, c'est un bonheur que les comédiens de cinéma, par exemple, ne connaîtront jamais. Ils ne voient jamais leur public. J'ai une histoire formidable de Rochefort, je sais pas si j'ai le temps de raconter. Il était dans une tournée où ça se passait assez mal. La pièce ne marchait pas très bien. Et il commençait de dos au public, comme ça. Et il jouait devant une salle où il y avait, 50 personnes. Hein. Il se retourne. Et il dit, avant de dire sa première réplique, il entend une dame qui fait « Oh, qu'est-ce qu'il a vieilli !» Alors à ce moment-là, il a fait « Oh non, madame, merde, franchement, merde !» Et il est parti.
Alors nous allons recevoir maintenant un auteur-compositeur-interprète de 33 ans, qui s'était déjà illustré en écrivant et arrangeant la comédie musicale « La Belle et la Bête », avec de vrais musiciens, d'ailleurs, et pas une bande, puisqu'elle disque d'or en Belgique. Il s'agit de Sylvain Méniac, qui vient nous présenter son premier album, qui s'intitule « L'amour me le pardonnera ». Il sera sur scène à Paris, au théâtre de 10h, lundi prochain, 24 mai, ainsi que le 7 juin. Je ne sais pas si c'est à 10h, mais peu importe. Et Le Petit Chauvier, c'est un hommage à l'un de ses modèles, Serge Lama. Chauvier, c'est en fait le vrai nom de Serge Lama, qu'il vient nous interpréter seul au piano. Sylvain Méniac. Le fou du roi. Le fou du roi est de retour et événement ce matin, nous recevons Michel Sardou.
Ouais.
Et voilà. C'est quand même
impressionnant de le recevoir, c'est vrai, à France Inter. Ouais. C'est la première fois que vous venez, vous êtes invité à France Inter ou...
Oh, j'ai dû venir un petit peu du temps du général.
Et quand les ricains ont été interdits de
pas très souvent, non, c'est vrai, je suis venu deux trois fois, mais en 40 ans, je crois,
bon, tant que je serai là, à mon avis, vous pourrez venir autant de fois que vous voulez.
Gentil.
Le nouveau président, arrêtez de faire un procès d'intention.
Oui, c'est vrai. Alors, Michel Sardou vient avec un nouvel album, Du plaisir, c'est effectivement ce que procure cet album, et puis il y a cette tournée dont on va continuer de parler à travers toute la France. Enfin, c'est plutôt un plaisir de voir que Michel Sardou est de retour. Alors avec nous également, je vous présente mes camarades, Gilles Tessier. Bravo. Quelle est la tendance du jour?
On est en pleine flower power en ce moment. C'est une sous-tendance du Revival 70s.
D'accord, vous, voyez vous êtes gentil, mais vous savez, Michel Sardou est un homme qui a plu aux Français, il plaît toujours aux Français parce qu'il chante en français.
Il a chanté les beatniks.
Oui.
Mais c'était très bon.
Alors, traduisez.
Eh bien, c'est la renaissance de ça.
Ah, c'est ça.
Alors, on est en plein pouvoir des fleurs. Voilà, ce qui est une sous-tendance de du retour des années 70.
Vous avez du mal à parler français, madame. Alors, avec nous, Michel Fitoussi, Bruno Mazur, Damien Thévenot et Guy Carlier. Et Richard Lornac au piano. Damien, je sais que vous êtes... Allez-y.
Je voulais poser une question à Michel. Il y a un très beau duo avec Garou sur votre album. Si on vous avait demandé de chanter avec une jeune femme, une chanteuse de la génération d'aujourd'hui, vous auriez souhaité qui?
Il y en a une qui m'a beaucoup impressionné, c'est Chimène Badi. Elle a vraiment quelque chose. Ce n'est pas une amie, donc je peux le dire librement.
Vous avez fait un duo il y a quelques temps sur France 2 avec elle.
J'ai surtout eu la révélation, si je puis dire. Je chantais pour les Restos du Cœur et on était tous en ligne comme ça. Je chantais une chanson de Panique, qui est une chanson très très haut perché parce qu'elle a une voix lui très très puissante. Et je ramène, moi, pour y arriver, et j'entends un avion qui me passe au-dessus de la tête, je me retourne, et je vois la petite Chimène. Ah, je la connais pas, évidemment, j'ai écouté, vous chantez vraiment comme une bête. Voilà. Enfin, l'occasion s'est présentée, après on m'a demandé de faire un duo, parce que justement, j'ai rencontré une fille formidable, et je voudrais le faire avec elle. Et ça m'a pas déçu. Et je pense que, enfin, je crois qu'elle va faire du chemin, elle. Je crois.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel sur cette fille qui sort de je ne sais plus quelle émission de télé-réalité et qui n'est pas du tout formatée comme les autres, c'est-à-dire que c'est pas vraiment c'est une fille d'une émotion qui est émouvante quand on la voit, elle touche vraiment, hein, c'est très très.
Mais on a annoncé que vous pourriez être une sorte de parrain pour la prochaine édition de la Star Academy, c'est vrai?
J'en sais rien. Pour vous dire la vérité, c'est pas fait encore, c'est pas décidé. Je sais pas encore.
Mais en tout cas, vous défendez plutôt ce genre d'émission parce que vous dites que c'est l'une des rares où les chanteurs peuvent chanter en direct.
C'est que le problème, attendez, il est simple. Il n'y a plus d'émission où on chante. Alors, ni pour les jeunes, ni pour les vieux, ni pour les grands, ni pour les petits, les variétés disparaissent petit à petit de l'écran. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, ça fait partie du, ce que j'appelle le pendule, hein. Bon, on m'a fait chanter à la Star Academy. Moi, j'avais jamais vu la Star Academy. Bon. Mais je prends ça comme une émission, moi. Je prends pas ça du tout comme...
comme un programme de
télévision. Je m'en fous, je la critique pas, je l'encense pas. C'est une émission. Voilà, c'est une bonne idée, ça marche, ça a fonctionné. Maintenant, est-ce que l'année prochaine, ça va être aussi fort? Est-ce que les gens vont être aussi intéressés? J'en sais rien. Mais quand j'ai vu le professeur de chance qui disait... Je pense qu'ils vont avoir du mal à faire une tournée de plus de deux jours.
Quoi. on parle beaucoup.
Pour moi, c'est une émission. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est parfois pris par les enfants en disant je sors de là, ça y est, je suis arrivé. Parce que c'est vrai que les lumières brillent, parce que c'est vrai qu'il y a de la presse, parce que c'est vrai qu'il y a des photos partout, etc. Mais après, la lumière s'éteint. Et c'est là où
c'est tout commence.
Et c'est là où quelque part, ça m'emmerde un peu, pour vous dire la vérité. C'est quand la lumière s'éteint. Alors, peut-être que là-dedans, il y aura effectivement des gens qui vont dans le noir se préparer leur éclairage à eux. Je le souhaite. Alors, peut-être que je serai parrain de cette émission de variété, mais pour moi, ça n'aura pas... Je leur promettrai pas le végétariat à la fin des trois. Je pense que ça dure six mois, un an, j'en sais rien. Mais je veux dire que c'est vrai, quand par exemple on parle de Chimène, il se passe quelque chose. suis pas seul à le ressentir. Moi, je l'ai vu chanter, j'ai vu le public.
Pourtant, c'est pas non plus notre tasse de thé, mais c'est vrai qu'il y a une émotion
il
réelle.
Il écoute, il y a une émotion réelle qui se passe.
Il y a une chanson à votre album qui s'intitule « Je n'oublie pas ». J'imagine que vous n'oubliez pas ni ce qu'on a fait en bien pour vous, ni aussi ce qu'on a fait en mal. Vous avez été souvent très très critiqué, violemment, même dans la presse. Est-ce que tout ça vous a... Évidemment, sur le moment, ça a dû vous toucher. Est-ce que vous êtes rancunier?
Non, pas
vous...
du tout. Pas du tout. La critique, je la vis assez bien.
Mais parce que cette image de chanteur de droite, par exemple, ça doit...
C'était une époque. Bon, faut dire aussi que j'avais des sujets. Faut dire aussi que je tendais le bâton pour me faire battre. Hein. C'est... Faut pas quand même dire à chaque fois les journalistes... Bon, j'ai fait les Ricains, ça c'était une chanson de jeunesse. Après, quand j'ai fait...
Le France
Bon, le France, c'était déjà plus accepté parce que les gens étaient un peu surpris qu'on vende... Mais quand j'ai fait Je suis pour, par exemple, c'est mal tombé et le titre était mal choisi. À l'époque, j'aurais dû écouter Gilles Thibault qui me disait « Appelle le talion, on comprendra mieux » parce qu'il n'y a aucun moment dans la chanson il y a question de la peine de mort. D'ailleurs. Il est question uniquement d'un type qui aurait buté un autre, c'est tout.
Aussi le malentendu sur le temps des colonies.
Oui, alors ça m'a rendu furieux, ça. Parce que, alors là, je fais un truc, justement, me foutant de la gueule des types dans les bars, hein, ils font, bah, monsieur, j'ai fait la colo, enfin, un petit peu de l'eau, j'allais dire, un petit sous-audiard, quoi, bon, pour marrer un peu, et c'est pris au premier degré par un abruti qui commence à faire un scandale à la radio en disant comment peut-on au son chanter ça.
C'était qui l'abruti?
Je ne me rappelle plus de son nom. Il a disparu, mais c'est fou ce que le mec disparaisse vite dans ses...
Et vous êtes toujours là.
Donc je vois ça, puis comme j'avais déjà supporté tout, parce que le mot fasciste arrive à une vitesse terrible quand vous faites quelque chose, alors que les gens ne savent pas vraiment de quoi ils parlent.
À l'époque,
c'était
une mode de traiter
les gens.
Quand j'étais ado, quand on piquait une prise, on claquait la porte, on disait à nos parents fascistes, on montait ce qu'on
voulait.
Alors là, j'ai piqué, c'est peut-être la seule fois où ça m'a emmerdé, ça. Mais autrement, le reste, la politique, je la vis assez bien, il en faut. Bon, on vit avec depuis des siècles, il y a toujours eu, il y en a toujours un qui n'est pas content.
On a voulu vous faire une petite surprise. Bon, Michel, vous abstenez, moi je m'abstiens aussi. Oui, je chante pas aujourd'hui. Mais Richard voulait absolument montrer qu'il connaît bien le répertoire de Michel Sardou. Alors, je sais, Damien, vous chantez très juste. Donc vous êtes mis à contribution.
Oui, mais c'est parti. Je me mets les petits souliers. Hein.
Allez, on va préciser. Et le public, attendez, tout ça est fait pour le public du 206. Ouais. Je sais, vous avez des micros au-dessus de vous, vous connaissez toutes les chansons de Michel Sardou.
Et vous êtes filmé par 24 caméras.
36
micros. Ceux qui veulent iront au confessionnal derrière.
Donc c'est parti. Hein.
Cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc.
Bravo.
Ah, quelle émotion.
On chante plus derrière Stéphane, on sait, nous, on sait, on a beaucoup de...
Là, ça le fait. Il n'y a rien à dire, ça
le fait. Il n'y a rien à dire, oui.
Quand j'étais petit garçon, je repasse mes leçons. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires.
En ce temps,
c'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con. En chanson, ma vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant.
On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon.
Tu peux être pas la vraie de vrai, la jamais de
Beaujolais. Oui, mais c'est celle qui plaît quand on
va. Bravo, Gabriel, merci à Richard Lornac et merci à Michel Sardou.
Il a raison, Michel, parce que la là-bas, le deuxième là-bas, il est mortel. Hein.
Il est mortel.
Oh là là.
Sur scène, évidemment, vous mélangez les nouvelles chansons du nouvel album du plaisir. Mais j'imagine le pub, vous les mélangez avec les anciennes, avec toutes ces chansons.
Bon, on est obligé, parce que j'avais essayé une fois de faire un tour avec que des nouveautés, et ça n'avait pas fonctionné du tout. Ils veulent. Je le comprends, parce que moi j'avais été voir un concert d'Elton John et j'adorais Tonight. Et je vais au concert d'Elton à Bercy et il chante pas Tonight. Et pourtant j'ai l'habitude, je sais qu'il en a marre de chanter Tonight, et comme tout le monde. Je suis sorti de là, j'étais déçu. Alors je pense que le public... Non, pas celui-là. Le public vient pour sa chanson très souvent et j'entends souvent à la sortie, mais moi j'ai pas chanté ma chanson, j'étais venu pour je peux pas chanter tout le temps. Et
comme Beko, Michel, qui un soir faisait un spectacle et le lendemain un autre, il alternait le bleu et le rouge.
Ouais. Je peux faire ça.
Pas convaincu. Hein.
Alors on va accueillir à nouveau Anne Pierlet, son compagnon et guitariste Cohen. Elle revient nous interpréter une chanson de Jacques Dutronc.
C'est son compagnon. Non, c'est ce que Bruno voulait savoir tout à l'heure.
Qui est aussi...
Non, mais vous êtes ensemble.
Oui, bon, c'est leur vie privée, ça ne nous regarde pas.
C'est vous qui le dites, compagnon.
Ils viennent ensemble.
Non, mais compagnon, accompagnateur.
Vous êtes juste amis ou il y a eu un...
Alors,
ne répondez pas. Chanson. Voilà, elle revient nous interpréter une chanson de Jacques Dutronc, qui est aussi son dernier simple, Paris s'éveille. Et bien sûr, ils sont accompagnés pour l'occasion par Richard Lornac. Bravo Richard. Anne Pierlet. Merci Anne Pierlet. Merci à Cohen. Merci à Richard Lornac. Je vous rappelle une dernière fois le titre de son album, Helium Sunset. Et toutes les dates de ses concerts, les infos sur son site www.annepierlet.net.
Et merci à Stockhausen pour l'arrangement. Non, mais ce qui est dur, c'est que c'est une chanson qui est tellement marquée par la flûte. C'est vrai, l'arrangement de flûte, que dès que tu changes un peu l'arrangement, c'est un peu... Oui, légèrement, mais bon.
Alors, sans plus tarder, on va... Je sais pas si vous aimez les choses à la mode.
Il y a deux espions du KGB.
Non, deux barmen. Vous dites d'ailleurs que vous ne cherchez pas à être à la mode et que vous défiez les modes. Alors, vous avez raison, du reste, parce que c'est la meilleure façon de ne pas se démoder. Eh bien, ce garçon est terriblement à la mode. C'est Gilles Tessier. J'adore, il fait les grands gestes pour saluer le public, il est caché derrière des fleurs.
Oui, ça fait très speakerine, on dirait un peu Catherine Langeais à l'époque, vous savez, qui prépare ses programmes avec le bouquet, de tulipes. Alors, on est en pleine flower attitude.
Le magazine féminin.
Alors, c'est quoi votre flower attitude?
Ah bah, alors, flower power.
attitude, avec des choses étonnantes. Et tout d'abord, et là vous allez être content Stéphane, parce que vous m'avez reproché très très souvent sur cette antenne d'avoir trop parlé d'alcool. Et là, je vous ai amené le chef barman du Plaza Athénée, Thierry Hernandez, que vous pouvez applaudir, c'est un grand chef. Il est accompagné de son acolyte Mathieu et il va nous faire le cocktail hyper tendance du moment qui est sans alcool, c'est le Power Flower. Alors Michel l'a dit sans intérêt.
Alors mais... lui, merde, j'ai déjà eu Paris s'éveille sur la flûte.
Maintenant j'ai le cocktail sans alcool. Tout est aseptisé ici maintenant. Michel, vous connaissez le bar du Plaza?
Oh, je connais tout le Plaza. Je connaissais que le bar. C'est pas grave, mais...
Alors, pendant qu'on parle, et pendant que je vous présente d'autres objets, Thierry Hernandez et Mathieu vont nous faire ces cocktails qu'on va pouvoir déguster, hein, on va dire ce qu'on en pense. Thierry, il y a quoi dans ces cocktails
En fait, c'est à base de sirop de fleurs blanches uniquement, et complété d'une eau enrichie en oxygène, servie sur glace, sur un petit socle lumineux. En fait, l'idée, c'était de valoriser le client qui ne boit pas d'alcool dans le bar, parce que le bar est assez sombre. Lorsque nous apportons le cocktail, en fait, tout s'illumine.
Attends, ça c'est faux cul.
Est-ce qu'on peut
me permettre de... Oui. Parce que le bar du Plaza, quand même, arrête. Arrêtons tout.
En fait, c'est quand même destiné à une clientèle féminine qui ne boit pas forcément beaucoup d'alcool.
Vous entendez, Michel? Mmh. Dis donc, c'est réservé à une clientèle féminine qui ne boit pas beaucoup d'alcool.
Dis donc, la voyons.
Bah oui, mais...
Donc, c'est pour ça que j'y vais vers 11h30, moi.
donc en fait, pour donner une autre alternative au classique cocktail de jus de fruits ou soda, on a voulu créer une nouvelle saveur avec ce sirop de fleurs blanches.
Nous, ce qu'on veut, c'est le goûter, donc vous allez nous en faire.
Parce que vous, évidemment, vous passez vos journées au Plaza.
Il est fini à votre cocktail,
chef. Oui, tout à fait.
Et si on peut vous trouver votre cocktail sans aller vous voir au Plaza, par exemple, si j'habite la France...
Et si vous avez un jardin, vous faites un cocktail de fleurs.
Non, comment trouver cette essence de fleurs blanches?
Michel sent, d'abord. Michel goûte.
Votre bouteille, là, on peut la trouver où?
C'est de l'eau sucrée avec un petit parfum de fleurs. Non, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Non, vraiment. Bravo. Moi, personnellement, quand je vais au bar du Plaza, je prends mon truc habituel. J'avais mon truc habituel, oui. Parce que,
c'est pour votre femme, Michel, parce que c'est sans alcool. Exactement. Pour les dames, apparemment.
On peut signaler qu'on...
Mais j'y vais avec des amis.
Formidable.
Et Michel, vous avez merveilleusement bien touillé, j'ai remarqué ça, c'était d'une sensualité hallucinante. Vous avez touillé ce cocktail avec un petit bâtonnet de sucre bleu. Que vous pouvez laisser bleu, que vous pouvez laisser plus ou moins longtemps dans votre cocktail si vous le voulez plus ou moins sucré. J'ai bien résumé l'affaire?
Exactement. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs finir votre cocktail en grignotant ce petit en sucre.
Merci beaucoup Thierry, merci pour ce cocktail.
Alors, il va nous en faire d'autres qu'on va couper pendant que
vous parlez d'autres objets. On parle vite de vos objets, vous avez peu de temps.
Le bar est formidable.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un endroit très beau, le bar?
Ah oui, moi je trouve ça formidable.
Mais vous passez toute votre vie au Plaza.
Non, attendez, juste je voudrais dire une chose, c'est qu'en plus... si vous avez un rendez-vous romantique, ça paraît comme ça inaccessible, oui. Et tout. Ce sont des gens très simples. Vous n'avez pas besoin d'être habillé, je crois, en queue de pie ou etc. Et allez-y, vous faites un moment pas donné, mais qui restera marqué. Et
même les gens comme moi sont acceptés. Hein. Même les gens comme moi sont acceptés là-bas.
Je ne savais pas, non. Ils sont descendus bien bas, alors. Continuons.
Alors, Anne Vinocourt. Vous la connaissez, Anne Vinocourt?
Non.
Eh bien, c'est elle qui fait ces superbes compositions florales. Alors, sur la table, on a un bouquet de tulipes dans un vase magnifique. Vous voyez comme elles sont belles, ces tulipes?
C'est vrai?
Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire.
Excusez-moi, c'est pas très radiophonique, là, pour le coup.
Sont des vraies tulipes.
On dirait des vraies.
Des fleurs pour les cimetières, et alors, à part ça...
Non. Ce sont des fausses fleurs, mais c'est magnifique.
Mais elles sont bien limitées, elles sont pas larges.
Oui, tout à fait, et c'est une vraie tendance, la fleur artificielle.
Ah oui.
Ça a vraiment le... Vous voyez, souvent on est de plus en plus, quand on est urbain, citadin, dans des appartements où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière, mais on veut quand même avoir des fleurs, et bien là c'est l'occasion effectivement d'avoir des fleurs. Ça vous passionne, Michel, hein?
Franchement, je suis scié.
Mais oui. Allez à la boutique Adlinocourt, vous verrez, il y a des trucs super.
Très bien.
Le problème des hommes, quand ils offrent des fleurs,
oui,
c'est qu'ils ne savent pas tenir les fleurs. Est-ce que, Michel, vous pouvez nous tenir ce sont des vraies fleurs, ce bouquet de fleurs? Faites voir comment vous tenez des fleurs quand vous arrivez. Offrez-les-moi.
Merci Michel.
On pourrait demander à Michel d'avoir des confidents. Est-ce qu'il apportait des fleurs à elle?
Vous pouvez m'appeler Gilles, Michel.
Michel, racontez-nous.
Je l'ai pas vu apporter des fleurs à elle, mais enfin je l'ai vu. D'ailleurs, comment va Anne-Marie, Michel? Qui nous manque à cause de vous, qui nous manque beaucoup.
Oui, parce que Michel était éditorialiste de Elle, et voilà.
Ah oui.
Nous et aimons beaucoup Anne-Marie.
Mais... dans les fiches cuisine.
Oui, oui, oui.
Et alors, j'ai le truc quand on ne sait pas porter son bouquet. J'ai le porte-bouquet. Regardez, c'est superbe. Le porte-bouquet fait donc, par le jardin espèce, des fleurs.
C'est une espèce de petit carton. Il faut
c'est un carton à rayons. Dans lequel on met le bouquet, et regardez,
il a craqué. Il a craqué,
et là, ça vient de se déchirer.
Voilà.
Et là, la nana, elle s'en va. Voilà pourquoi j'avais
connu la
femme.
Le bouquet, c'est trop gros. Mais oui, mais moi, j'offre beaucoup de fleurs quand j'en offre, c'est pour ça. C'est
voilà. Alors, continuez. Balance à la tête.
Ah, alors,
on a encore un peu de temps,
c'est juste une minute. Oui, parce que je voudrais quand même vous montrer ça. C'est le top du top de la fashionista. Ce sont
les sabots.
Les sabots des laines.
Fleurs.
Et tout crotté.
Et ben là, c'est les sabots des laines. Était tout fleuri.
Vilaine, où la vilaine?
En stage, je me rappelle, c'était une chanson qu'on avait apprise de Mykonos.
Où la vilaine?
Bon. Bon, et donc, Michel est déconcerté.
Non, j'aime beaucoup, je préfère les sabots aux tulipes en plastique, là, oui.
Non, est-ce qu'on dirait sincèrement des tulipes en plastique?
Ah oui, oui. Franchement, oui, je suis désolé de vous.
Alors,
de
ça, c'est du plastique aussi, ce sont des sabots, voilà, semelles en bois et tout, qui reviennent en force. Ça, Michel, quand vous aviez à peu près 35 ans dans les années 70...
Oui, merci.
Non.
Quel monstre.
Vous n'êtes pas son genre.
Mais j'ai toujours...
Vous portiez des sabots fleuris comme ça.
Oui, j'ai même le pantalon fleuri.
Pour l'Olympia,
les
c'est bien.
Fleuris et, les,
et pour chanter le rire du sergent, la folle du régiment.
Et des fleurs dans les cheveux.
Je vais
les
envoyer si à la San Francisco.
Ah oui, c'est les sabots de Vincent McDoom à la
fin.
Je veux dire, Pascal, tu vois.
Il faut les offrir à Vincent McDoom.
Pascal, le métard, on va les offrir.
Sabots. Alors, j'explique quand même, ce sont des sabots, donc en bois, des vrais sabots, mais avec dessus sur la partie supérieure des petites fleurettes jaunes, bleues, vertes,
c'est pour...
sur un fond rose.
Mais
c'est pour homme ou pour femme, vos sabots là?
C'est pour femme.
C'est pour homme ou pour femme?
C'est pour femme. Et ça se trouve chez Nature et Découverte.
Voilà,
donc tu peux les trouver. Ça va aimer ça. Ensuite, alors. On a, pour vous montrer quand même que les fleurs sont vraiment très tendance, on en met aussi sur les bidons d'huile maintenant, l'huile d'olive, chez Soleillado, très belle marque, ils proposent, le bidon d'huile avec des fleurs aussi dessus, le fond est vert olive, et il y a des petites fleurettes dessus, on en trouve vraiment partout. Et, j'ai même découvert pour vous, des chocolats à la fleur. Vous voulez goûter ça,
non.
Michel?
Non, non.
C'est Mazette, c'est ça. Hein. Non, c'est quand même un gros chocolatier. Non, Michel.
J'ai goûté le cocktail. J'ai peur d'être malade. Après, je vais être malade.
Michel, c'est les sabots ou les chocolats? Non, non. Choisissez.
Rien.
Non, mais les bordels.
C'est sur le guide. On lui a infligé par les sévères.
Goûte ça. En fait, c'est à la fleur de thé. Ce sont des chocolats à la fleur de thé. C'est extrêmement fin. Tiens, mon nono.
Très bien. Un dernier objet, Gilles.
Alors. Un dernier objet, eh bien j'ai...
Ouais, c'est super bon.
Très bon. Ah ouais. On est d'accord, Mazet, c'est quand même le grand chocolat. J'ai le tapis de graines, très tendance urban attitude. Vous êtes chez vous, vous voulez un petit jardin. Michel, ne me regardez pas comme ça.
Oui, je vous regarde. Mais non.
Alors ensuite,
je sais pas, mais bon,
et expliquez-nous,
forcez-vous.
Enfin, mais le fait. J'écoute avec un intérêt grandissant.
Ah oui, parce que là,
j'ai passionné.
Je suis troublé.
Vous m'avez dit la carpette attitude.
Non, c'est un tapis de graines qui est dans l'urban attitude. Quand on habite
dans l'urban attitude.
Quand on habite un petit appartement.
Oui.
Ça vous est arrivé à certain moment dans votre vie, c'est des petits appartements. Oui, oui. Bon, on n'a pas beaucoup de place, on aime bien avoir un petit jardin. Alors, on achète ça chez Nature et Découverte, c'est un tapis de graines, on l'ouvre et là, il y a un petit tapis qu'on arrose, ça se gonfle, un petit tapis papier, il y a des rangées de graines dessus
et ça pousse.
Et ensuite, sur le papier imbibé d'eau, les graines poussent. Et là, il y a des petites herbes, des petites choses vertes.
Et vous avez cru à ça.
Mais donc, tu peux ouvrir qu'une page.
Est-ce que j'ai le droit de dire quel signe me fait Michel?
On peut les fumer, les...
Vous avez tout compris, Michel, je vous l'offre.
C'est-à-dire, c'est pas l'urban attitude, c'est la défense attitude.
Ah oui, il y a écrit Made in Amsterdam.
C'est pas un coffee shop ici.
Ça ressemble à tout gazon pour chat.
Merci,
est-ce qu'on peut goûter le cocktail pour que vous disiez ce que vous
voulez? Non, goûter. Excellent, c'est très très bon. Merci beaucoup. Michel Sardou, merci
c'est
d'avoir été
la chronique tendance.
Il ne me reste plus qu'à remercier Michel Sardou d'avoir joué le jeu, d'être venu nous voir. Merci d'être venu avec ce bel album. Du plaisir. Et il y a également cette tournée. Donc, je rappelle, du 3 au 27 février, c'était au Palais des... 2005, hein. Réservé dès maintenant, parce
c'est
que si on...
2004.
Déplace... Oui, c'est un peu tard. Non, mais il y a toutes les dates en
même
temps.
Même si on est en direct, il y a quand même pas tant d'écart.
Merci. Merci beaucoup, Michel Sardou.
Moi, je vous remercie.
Voilà. Demain, notre invité, c'est Lio. C'est une émission déjà enregistrée. Voilà. Le Fou du Roi vous salue bien. Merci à tous. On se quitte avec Dominique A. C'est un album, une tournée France Inter, Les Éoliennes. Et je vous retrouve demain matin. Merci.